Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Bienvenue sur Point d'Orgue. Alors aujourd'hui, je me suis un petit peu interrogé sur ce que pouvaient parfois me dire mes amis ou tout à fait d'autres personnes. Et c'est vrai que quand on fait de la musique liturgique et en plus de la musique classique, on a quand même un reproche qui nous vient régulièrement, c'est... Franchement, ça transpire pas la joie de vivre, quoi. Votre truc, c'est un peu dans le formol. Pourquoi est-ce qu'on irait écouter ça quand, à côté de ça, eh ben, pour nos soirées, on a beaucoup mieux? Eh bien non, on n'a pas beaucoup mieux. Et je vais vous le montrer. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement d'écouter un peu de joie dans la musique sacrée et dans la musique liturgique. Alors pour commencer ce voyage dans la joie, pour mettre un petit peu de soleil, à l'heure où j'enregistre, il fait un petit peu gris, donc j'espère pouvoir redonner aussi un petit peu de soleil et un petit peu de chaleur. Dans ce voyage de la joie, je vais, comme d'habitude, vous proposer un voyage dans le temps, et on va commencer par la musique baroque. La musique baroque, vous le savez, je vous en ai déjà beaucoup parlé, vous commencez à comprendre un petit peu mes goûts. C'est une musique qui est tout à fait particulière au niveau de la joie, parce que c'est une musique extrêmement sentimentale, c'est une musique qui parle beaucoup en priorité effectivement à l'âme. C'est ce que mettent en avant en tout cas les compositeurs et les musicologues aujourd'hui, parmi lesquels Gilles Cantagrel par exemple, sont d'accord. Alors je vais vous proposer un premier compositeur. Pour l'instant, nous n'en avons toujours pas parlé, et pourtant c'est un monstre sacré de la musique, de par son influence notamment. Il s'agit de Dietrich Buxtehude. Alors, ce nom vous est peut-être inconnu, si vous n'êtes pas parfaitement mélomane, mais en fait, ce compositeur a une influence déterminante dans la musique du XVIIe siècle. Il s'agit, ni plus ni moins, de l'un des plus grands maîtres de la musique allemande, du baroque allemand. Il a eu une influence déterminante dans la musique occidentale, et en particulier sur le jeune Jean-Sébastien Bach. Et là, il y a une petite légende qui s'est montée là-dessus. Jean-Sébastien Bach serait venu presque en pèlerinage dans la ville de son maître, à pied, pour bénéficier de son enseignement. Aujourd'hui, on ne le sait pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la musique de Buxtehude a beaucoup influencé celle de Bach. Ça, c'est une certitude absolue. Et je vais vous le montrer tout de suite. Je vous propose d'écouter un Alléluia, qui est issu d'une de ses cantates, qui est un magnifique morceau qui, à mon sens, est très représentatif de la joie. Pourquoi ? Vous allez voir le côté tout de suite dansant, qui est là aussi très représentatif de la musique baroque quand elle veut évoquer la joie. Et vous avez, dans la façon dont se répondent les chœurs, dans la façon de chanter, quelque chose de très exultant finalement. Vous allez voir parfois les syllabes se détachent sur le Alléluia, vous avez « A ». Ah, ah, et on dirait presque que les chanteurs rient et se répondent dans la joie, dans l'allégresse. Et ça, c'est un très très beau symbole de joie, à mon sens. Et donc, vous allez voir que même au XVIIe siècle, on est capable d'avoir une joie tout à fait communicative. Je vous laisse donc avec cet Alléluia de Buxtehude, qui est ici interprété par l'Orchestra Anima Aeterna et Royal Consort, le Collegium Vocal, sous la direction de Jos van Immersel. Thank you. peu pour la provocation tout à l'heure, je vous parlais du fait de s'amuser en soirée. Alors sachez que ce compositeur génial, qui est Buxtehude, a conforté une pratique qui était tout à fait spéciale dans la ville où il officiait. Il était à Lübeck, et c'était ces fameux Abendmusiken, qui étaient des moments de musique au moment de l'Avent. Et c'était des concerts qui étaient extrêmement courus et qui ont perduré jusqu'aux guerres napoléoniennes. Donc vous voyez, il y a eu une véritable tradition des soirées musicales grâce à cet homme. Et avec l'extrait que vous avez entendu, bon, j'espère que vous avez pu mesurer l'étendue de son génie, de son talent, et en tout cas le fait qu'il sache parfaitement transmettre sa véritable joie. Alors cet Alléluia est au milieu d'une cantate. Je vous invite à découvrir les cantates de Buxtehude. Elles sont toutes plus sublimes les unes que les autres. Et maintenant que nous avons écouté le maître, je vous propose de passer à l'élève, parce que on peut difficilement parler de joie sans évoquer un tube extraordinaire de Jean-Sébastien Bach, qui est le Jesus bleibet meine Freude. Donc tout est dans le titre, puisque Jésus est la joie de ceux qui le chantent, de ceux qui le louent. Et pourquoi est-ce que je vous mets cet extrait ? Il est extrêmement connu, on sort de la musique baroque, on reste dans la musique baroque, pourquoi ? Tout simplement pour que vous puissiez saisir différents types de la manière de toucher des âmes dans la musique baroque. Voyez, ce que vous avez vu dans l'Alléluia de Buxtehude, c'était quelque chose de tout de suite très communicatif. Pourquoi ? Parce que ça virevolte un petit peu, les chœurs se répondent, il y a du dynamisme, etc. Alors que dans cette cantate, dans ce morceau de Jean-Sébastien Bach, la joie est tout à fait différente. Alors elle n'est pas du tout complètement intérieure, mais c'est une joie qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans la confiance. Et elle reste tout aussi communicative. Alors, je vous laisse tout de suite avec la musique, vous allez pouvoir comprendre ce qui se dégage au travers de cette œuvre, et on pourra en reparler un petit peu après. Donc voici Jesus bleibet meine Freude, qui est dirigé ici en plus par quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, tout simplement parce que il s'agit de Ton Koopman, qui est la personne dont les interprétations m'ont véritablement donné envie de faire de la musique. Donc je suis très heureux de vous faire découvrir une interprétation de ce maestro, Jesus bleibet meine Freude, de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Quand on entend ça, c'est une véritable marche forcée vers le bonheur. C'est tout le génie de Bach, finalement. Alors pourquoi est-ce que j'emploie ce terme qui peut paraître étrange de marche forcée vers le bonheur? Eh bien, tout simplement, parce que c'est le rythme qui indique cette marche à suivre. Ce rythme qui ne s'interrompt jamais et qui fait comme si c'était une marche très confiante vers la joie. Ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta di da ta. Et finalement, on se dit qu'il y a toujours cette idée de mouvement. Je vous avais déjà dit, en parlant de la musique baroque et de celle de Bach en particulier, qu'il y avait toujours une idée de mouvement dans la musique. Et là, c'est très très frappant, et surtout avec ce chœur qui sont si vastes, si larges, on a toute cette joie non seulement dans les paroles, mais également dans la tranquillité, dans la confiance que dégage cette œuvre. Alors, c'est une marche forcée, mais finalement, c'est une marche extrêmement agréable, et c'est pour ça que je voulais vous la proposer. Alors maintenant, puisqu'on a fait un petit peu de filiation spirituelle, puisque nous sommes passés de Buxtehude à Bach, je vous propose une autre filiation un tout petit peu moins évidente, mais avec un compositeur dont on ne peut absolument pas se passer en musique classique. Il s'agit de Wolfgang Amadeus Mozart. Alors pourquoi il y a une sorte de filiation? Tout simplement parce que Mozart a bénéficié de nombreux enseignements, dont celui d'un des enfants de Jean-Sébastien Bach. Donc il y a une sorte de filiation spirituelle, comme je vous le disais, qui peut s'établir entre ces deux compositeurs. Alors, Mozart, il est né en 1756 à Salzbourg, il est mort en 1791 à Vienne. C'est un compositeur autrichien qui est l'un des plus grands représentants de la musique classique en général. Alors, musique classique, il faut aussi que vous compreniez que c'est un genre musical global qui comprend la musique baroque, la musique moderne, la musique romantique, etc. Mais c'est également une période, la période dite classique, dont Mozart est l'un des plus grands représentants. Alors, bien entendu, il serait très 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 léger de parler de lui comme ça. Il faudrait lui consacrer plusieurs émissions, tout comme Bach, bien entendu. Il a écrit tellement de choses incroyables, je pense à ses messes, à ses opéras, ses concertos, c'est quasi infini, c'est une source infinie de musique, Mozart. Et alors le morceau que je veux vous proposer ici est assez particulier, il s'agit d'un de ses Regina Celli, il en a écrit plusieurs. Celui que je vous propose est en Do majeur, c'est le K108. Donc on va pas tout écouter par manque de temps, comme d'habitude, vous le savez, mais je vais vous proposer le premier mouvement. Alors, un Regina Celli, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que finalement c'est représentatif de la joie? Alors je suis désolé, c'est pas tout à fait adéquat dans la période. Le Regina Celli, c'est un chant à la Vierge, à la Reine du Ciel, puisque c'est ça que veulent dire les paroles, qui s'emploie notamment dans le temps pascal. Alors je vous donne la traduction du texte. Réjouis-toi, Reine des cieux, Alléluia, car celui que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité, comme il l'avait annoncé, Alléluia. Prie Dieu pour nous. Alléluia. Voilà, alors là, on est complètement dans la joie de la résurrection, ce qui fait souvent faire aux compositeurs des partitions extrêmement joyeuses. Donc là, en plus, on est en Do majeur, une tonalité extrêmement ronde et puissante. Et là, vous allez voir qu'on est un petit peu dans le même principe que Buxtehude, c'est-à-dire, de manière plus développée, beaucoup de dextérité, beaucoup de virtuosité, que ça soit par les voix, mais surtout les violons, et vous allez voir l'orchestre qui répond au chanteur, et bien entendu, les termes eux-mêmes, l'étaré, réjouis-toi, alléluia, qui effectivement porte à la plus grande joie possible. Donc je vous fais découvrir cette version de Mozart, qui est dirigée ici par Herbert Kegel, par le Rundfunk Symphony Orchestra de Leipzig.
Thank you.
Et après ce magnifique, incroyable Regina Celli de Mozart, je vous propose, une fois n'est pas coutume, d'entrer dans de la musique liturgique que vous avez peut-être eu l'occasion de pas mal entendre. Il s'agit de Aujourd'hui, c'est jour de fête, qui a été chantée à Notre-Dame de Paris, donc par la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je vous propose ça, pourquoi? Parce que ce chant, malgré une grande solennité, reste totalement dans la joie. Donc vous allez voir, là aussi, il y a une question avec le rythme ternaire, qui est ressenti en tout cas comme ternaire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et qui évoque la cohorte des saints, parce que c'est un chant pour la Toussaint. Et vous avez ce mouvement, encore une fois, hein, des saints vers le ciel, vers le Christ, qui est ici extrêmement bien représenté. Donc je vous laisse écouter ce chant, ou le découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc il s'agit de la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris. voilà, chers auditeurs, je voulais vous faire partager un petit peu plus de morceaux que d'habitude. Mais j'ai fait ce choix parce que je me suis dit que de vous proposer 4 extraits musicaux au lieu de 2 ou 3, c'était peut-être comme vous offrir un peu plus de rayons de soleil. Voilà, donc, et comme on parlait de la joie, je trouvais que c'était une bonne façon de vous communiquer également cette joie, de vous offrir ces petites pastilles de bonheur dans la journée. En tout état de cause, je vous rappelle que la plupart de ces morceaux sont issus de morceaux plus grands, par exemple de cantates, donc je vous invite à les découvrir dans leur entier, de sorte à pouvoir comprendre l'œuvre dans leur intégralité. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, une très belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point d'Orgue.